à Rennes aujourd'hui, en Hexagone. Le contexte des Caraïbes.
Un appel à établir des ponts,
parfois à des kilomètres.
R22 Tout le monde, antenne Maison des Diasporas, pôle Grande Caraïbe.
Bonjour à vous, c'est toujours, même en petit groupe, je trouve ça toujours un peu impressionnant d'être réunis. Je remercie le théâtre L'Air Libre pour l'invitation. Moi je suis là uniquement, et Marlène aussi, pour en fait vous apporter des ressources, mais vous aussi en fait vous pouvez apporter des ressources. Et l'idée, c'est de co-construire ensemble, on va dire, quelque chose qui nous fera repartir d'ici avec quelques bagages, tels qu'ils soient. Donc c'est vraiment un espace de parole assez bienveillant. Évidemment, c'est pas un dispositif médical non plus, je dois le dire, on en a discuté hier en plus. C'est que en aucun cas on vient remplacer l'aide, l'appui d'un professionnel de soins. Il faut savoir que l'hôpital public, et on en est profondément solidaire, traverse une crise assez importante. Et je pense que c'est important de reconnaître à sa juste valeur le boulot de soignants, tout simplement. Donc ici, on est vraiment dans des espaces, on va dire, de parole populaire, où on va essayer de traverser peut-être des notions assez complexes, mais que vous pourrez poursuivre par ailleurs en vous référant à la bibliographie, avec des petits ouvrages qui sont présents dans l'enceinte du théâtre. Donc mise à disposition, je pense que vous pouvez acheter ces ouvrages, en tout cas si vous êtes intéressé. Et de toute façon, il y a aussi, n'hésitez pas à poser des questions sur d'autres références, parce que maintenant aussi, je pense qu'on est à un moment où on peut revoir comment est-ce qu'on apprend. Il y a beaucoup de podcasts, beaucoup de ressources gratuites mises en ligne pour en fait essayer de comprendre ces notions-là. Donc voilà, moi je pense que pour ce qui est de notre part, j'ai un petit peu contextualiser notre rencontre, et je laisse Vincent pour le Théâtre L'Air Libre vous présenter un peu la chose aussi.
Bonjour à tout le monde. Cette conversation, c'est le premier événement de ce Focus Monde, avec un S, qu'on a voulu organiser en fin de saison. Donc nous, pour resituer en fait le Théâtre L'Air Libre, c'est notre première saison, le Joli Collectif, qui a repris ce lieu il y a quelques mois. Et on a eu envie de prendre le temps, de se donner du temps sur quelques week-ends, donc d'organiser des focus. Il y en a eu un qui s'appelle Vivante en début de saison, en septembre, plus autour de la question du vivant, du non-vivant, etc. Un second autour de l'adolescence, comment on a des enjeux à partager avec les adolescents, les adolescentes, et quelles sont les créations qui peuvent leur être proposées. Et puis il y a ce troisième temps fort, monde, où on s'est dit que il y a la grande histoire, il y a la petite histoire. Il y a des artistes qui ont tous des trajectoires différentes, et puis il y a une société qui est multiple et qui est vraiment croisée à la croisée d'énormément de parcours et de trajectoires, et notamment en France. Et donc il nous semblait important de pouvoir inviter déjà des personnes qui viennent de plus loin que la métropole, que la France, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe à 5000 km, à 3000 km, à 8000 km, quels sont les liens qu'on entretient avec les personnes qui habitent là-bas. Donc parfois c'est la France, parfois c'est d'autres pays, comme là on invite des artistes du Québec également, et c'est pas anodin, en se disant qu'il y a aussi un espace francophone américain. Donc qu'est-ce que c'est que cet espace francophone américain? Et c'est plus des questions qu'on ouvre, c'est des personnes qu'on a envie de rencontrer, c'est des histoires aussi qui sont différentes, c'est des histoires qui sont à raconter différemment aussi peut-être, en laissant la parole et la place aux personnes qui ont vécu cette histoire peut-être dans leur intimité, dans leurs ressources, dans leur famille, etc. En tout cas, je crois qu'il y a un appétit dans notre équipe, et puis je pense aussi dans plein d'endroits dans la société, les gens ont envie et besoin de savoir et d'avoir, il y a besoin d'écrire les choses, de parler les choses. Et c'est vraiment dans cette idée-là, dans cette envie-là. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus ? Bah que, oui, qu'on est très content d'ouvrir ce focus avec cette conversation qui fait partie de... Ouais, des endroits. On a envie qu'à côté des spectacles ou des propositions artistiques différentes, il y ait un temps pour échanger et puis ouais, pour converser ensemble.
Très bien dit, très bien résumé. Pour cette première rencontre qui aujourd'hui en tout cas a lieu autour de la Grande Caraïbe, on a voulu s'axer sur la question de la désaliénation, qui est un concept assez complexe. Et en fait, la désaliénation des territoires des Caraïbes, notamment des territoires, on va dire, de la francophonie des Caraïbes, et leur rapport par rapport à l'hexagone / métropole. De toute façon, on pourra rediscuter de ce terme qui, de toute façon, aussi est assez complexe en soi. Et pour ça, on a la chance d'avoir une des artistes qui va performer aussi au cours de ces deux journées. Donc, bonjour Marlène Mirti.
Bonjour. Ah, ça marche.
Ah oui, ça marche. Donc Marlène, toi tu es chorégraphe, interprète principalement, mais maintenant je dirais même que tu es une artiste pluridisciplinaire qui en tout cas dans ton approche met le corps au centre et le fait dialoguer avec des enjeux sociétaux, des enjeux aussi historiques, mais aussi qui traversent en tout cas tous les espaces imaginaires de ce que j'ai compris, et mentaux. Tu as notamment monté un premier collectif en 91.
Oui, un premier collectif en France, ouais, en 91, avec des femmes, uniquement des femmes, dans le besoin de, bah justement, de parler de nous, de ne pas laisser, de ne pas laisser la place à d'autres personnes que nous-mêmes pour parler de nous-mêmes, et dans un désir de réunir aussi des femmes d'origines différentes et, on va dire, spécifiquement des danseuses, des comédiennes, des chanteuses, donc de ne pas cloisonner. Et cette idée, elle est venue vraiment d'un désir de travailler en rue, de mettre la danse en avant sur l'espace public.
Et après ça, t'as continué à monter des projets, et tout ça, on en discutait un peu en aparté, pour aussi, en fait, décloisonner en tout cas la pratique artistique et l'emmener aussi, notamment dans des centres de soins et dans des milieux un petit peu qui, de prime abord, sont éloignés, en tout cas, de la pratique artistique, dans des centres psychiatriques aussi.
Oui, en fait, la première expérience, elle est née sur la métropole, puisque ma compagnie a, au départ... était créé en métropole, et l'idée c'était de pouvoir travailler aussi en IME, c'est-à-dire vraiment des espaces médico-éducatifs, et voir comment par la pratique artistique, par des ateliers, on peut toucher d'autres publics que des scolaires type. Et ça m'a assez plu, et ça m'a donné envie en fait de continuer. Je l'ai fait pendant 10 années en France. Et quand je suis arrivée en Martinique, j'ai eu le désir aussi d'expérimenter cette transmission ailleurs, mmh. avec effectivement sur des EHPAD psychiatriques. Donc je ne sais pas si ça existe sur la métropole, mais en Martinique ça existe. C'est-à-dire ce sont des lieux où des personnes âgées qui sont dépendantes médicalement et qui ont un problème en fait, on va dire, psychique, sont pour toujours internés, et voilà, ils sont des endroits où on peut pratiquer aussi, et bah, ma foi, pas mal de choses au niveau de l'art, et ça c'est intéressant aussi, voilà.
Pour commencer cette rencontre, que je vous rappelle en tout cas qui a pour angle d'attaque la question comment se désaliéner du regard de la métropole slash hexagone quand on est issu des Caraïbes. Je voulais d'abord vous poser la question, est-ce que la notion d'aliénation parle à certains ?
Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Chloé. L'aliénation, bon, moi c'est un terme que j'ai découvert par le biais de France Fanon. En tout cas, moi, la lecture que je peux en faire de façon plutôt imagée, ça va être un souvenir que j'ai. J'étais à Fort-de-France, on va dire, dans les années... Enfin, dans les années, comme si ça fait des années. Mais 2017. Et je suis, du coup, sur une sorte de petit food truck, quoi, dans la ville capitale, du coup, de la Martinique. Et je suis avec un camarade. Et là, il y a un monsieur qui arrive avec un attaché case. Il fait super chaud, chemise boutonnée jusque en haut, genre cheveux coiffés, voilà. Et en fait, je me rends compte que le monsieur vit dans un monde qui n'est pas le mien. Et en fait, je ne sais pas si c'est très clair ce que je vais expliquer là, mais le sentiment que j'ai eu, c'est que ce monsieur jouait un rôle qui n'était pas le sien. Du coup, moi, c'est ce que j'assimile à l'aliénation, pardon. C'est d'oublier qui on est sous le joug de la société, voilà, ou de l'histoire, voilà ce que j'en dis.
Ouais, c'est ça. Quelqu'un d'autre ?
Je peux rebondir là-dessus parce qu'effectivement, de là où je viens, moi je viens de la Guadeloupe, j'ai connu quelqu'un qui était venu en métropole, qui était venu faire des études et qui, à Pointe-à-Pitre, qui n'est pas la capitale de la Guadeloupe, mais qui est la capitale économique, Sébastien d'où je viens. Il y avait un homme un peu comme ça aussi, et ce qu'il se racontait, c'était qu'il était quelqu'un de très très savant et qu'il était venu en métropole. Je pense qu'il peut y avoir, hein, parce que dans ma famille, mon grand frère est venu à l'armée ici et il est revenu changer. Et j'ai discuté aussi avec un Kanak que j'ai rencontré pendant mes études, et sans qu'il nous ait dit, j'ai compris ce qui a peut-être dû se passer, puisqu'on a appris plus tard, et ma mère a dû se battre, qu'il avait été emprisonné. Donc ça m'a fait penser à cette expérience de l'Hexagone ou la métropole qui va faire revenir là-bas, puisque je n'y vis plus depuis plus de 20 ans, donc c'est là-bas, même si c'est dans mon cœur, des personnes qui vont être ça me fait penser à Damas, costume, dans un costume, etc. Donc voilà, et puis sinon, dans nos campagnes, je viens de la campagne, moi, particulièrement, quelques personnalités, effectivement, comme ça, qui dans le jour parlent fort, agissent différemment, etc. Et qui sont là, qui vivent avec nous et qui sont dans leur monde, comme disait Chloé.
En effet, de ce que vous avez partagé tous les deux, on retrouve en tout cas dans l'aliénation le processus inconscient et une forme d'asservissement qui vise à déposséder un individu de lui-même. Et Frantz Fanon, lui en tout cas, il considère comme le regard, c'est le regard porté par l'autre qui nous rend étrangers nous-mêmes, à nous-mêmes. Et en tout cas, pour ce qui concerne la colonisation, il parle que l'ensemble de la société, du coup, est face à une névrose collective qui ne fait que déposséder les individus, et en fait qui dépossède ceux qui regardent les individus pas égaux, et en même temps qui, par ce biais-là, se dépossèdent eux-mêmes, en tout cas d'un regard d'humanité. Donc c'est une névrose collective. C'est que même finalement le colonisateur, par le regard d'aliénant qu'il pose à l'autre, et ben lui-même en fait se déshumanise en même temps. Et en tout cas, pour ce qui concerne la colonisation, ça a pris la forme d'exploitation, de torture, de razzia, de racisme. Et en fait, qui font que ça fait de l'autochtone un objet inerte entre les mains de la nation occupante. Et pour ce qui s'agit des Caraïbes, il faut savoir qu'on ne peut pas en fait envisager les relations qui régissent l'Hexagone, aux métropoles, aux Caraïbes, sans en fait revenir heureusement, malheureusement, mais c'est un fait au passé esclavagiste, parce qu'en fait, cette relation-là opère glissement, directement un glissement vers les relations qui régissaient le maître et l'esclave, puisque c'est le maître qui marquait l'esclave avec un sceau, et du coup, qui lui donnait une nouvelle identité. Et par rapport à ça, moi, je voulais vous poser la question. Attendez, il y a toutes mes notes, quand même, qui s'envolent. Et par rapport à ça, je voulais vous poser la question. À l'heure actuelle, Marlène, comment est-ce que, dans ta pratique du corps, tu sens, en fait, on va dire, l'esprit qui est aussi marqué par, on va dire, l'aliénation?
Ça, c'est une grande question. Mais peut-être que c'est la question de toute une carrière aussi. Il n'y a pas de réponse. Moi, ce que j'ai envie de dire, en tout cas, c'est qu'il ne s'agit pas tant d'une histoire géographique qu'il s'agit d'une histoire de positionnement et d'origine. Et moi, ce sentiment d'aliénation, je l'ai vécu avant même d'être en Martinique. Donc, de toute façon, c'est... un positionnement qu'on a aussi par rapport à une société environnante qui nous oblige nous-mêmes soit à réagir, et j'ai envie de dire qu'en tant que chorégraphe danseuse, effectivement, le corps a beaucoup de choses à dire, à émettre, à rendre, à exprimer, qui permettent peut-être justement une certaine libération, en tout cas du corps et de l'esprit, hein, des deux, et qui redonne une valeur justement au créateur. Donc moi, je vais juste parler en tant qu'artiste et dire que effectivement la danse m'a soignée et m'a permis d'avoir cette autonomie que j'ai aujourd'hui, et ce regard à distance de ce dont tu parles, avec la ferme intention en tout cas de ne pas me laisser envahir ou recouvrir. Et peut-être aussi transmettre des messages autour de moi, autant avec les artistes du pays qu'avec les publics du pays, qu'avec les publics qu'on va rencontrer aujourd'hui aussi, un message positif qui serait celui de retrouver tous notre humanité, tout simplement. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a tous vécu aussi, dont on a eu très très peur au moment de la pandémie. Qu'on soit des Caraïbes ou d'ailleurs, c'est comment est-ce qu'on entre en relation justement pour rester dans une... pour avoir l'esprit sain, en fait. L'esprit sain et le corps sain, je ne sais pas ce que tu en penses, Annabelle. On bosse ensemble là-dessus, hein, donc...
Sur le corps sain ?
Sur beaucoup de choses.
Bonsoir.
Je
me présente. Ouais, voilà. Bonsoir à toutes, à tous. Annabelle Guéredra, je suis chorégraphe, performeuse, directrice d'une compagnie de danse depuis 21 ans en Martinique. Voilà. C'est une question complexe. Moi, je suis... C'est vrai que je suis née à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Puis après, avec mes parents, on a vécu à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville, au Sénégal, à Paris. On est rentré en Martinique, j'avais 10 ans. Je suis partie de la Martinique, j'avais 17 ans. Et après, moi, j'ai vécu 14 ans à Paris, 7 ans à Montpellier. Donc, ça fait 21 ans de ma vie hors de la Martinique. Et j'y suis retournée il y a maintenant 11 ans en Martinique. Maintenant, du coup, je vis en Martinique. Et pour avoir travaillé en hôpital psychiatrique au CHU de Montpellier, mais aussi dans le quartier femmes de la prison de Nîmes, et aussi quand je suis rentrée en Martinique, ce qui m'a décidée à rentrer en Martinique, c'est mon engagement vis-à-vis de femmes violentées, battues, de femmes prostituées, de femmes détenues aussi. Et j'avais lu, en fait, ce qui avait déclenché cette envie, c'est que j'étais à Maglone, je crois, près de Montpellier, et je tombe sur un article dans Le Monde signé par Amos Oz, prix Nobel de la paix. Et puis, à la fin de l'article, il dit, écoutez, plutôt que de fustiger les politiques, si vous avez la capacité à faire du bien, faites-le. Et cet article, il m'a complètement chamboulée. Ça m'avait vraiment touchée de lire cet article, d'entendre cette parole, en fait. Et du coup, je me rappelle, j'ai pris mon téléphone et puis j'ai appelé de manière très spontanée la prison de Nîmes en disant, bonjour, je veux donner des ateliers. Enfin, c'était complètement fou. Bon, après, je suis passée par le SPIP, par une association qui s'appelait Peuple et Culture dans le Gard, etc. Et puis, au bout d'un certain temps, quand j'ai expérimenté ces ateliers qui font du bien, que ce soit au CHU de Montpellier, alors j'intervenais en psychiatrie et en gériatrie pendant 2 ans. Et le psychiatre avait décidé Il avait donné un deal à ses patients en disant, bah, soit vous venez prendre vos médicaments, c'était en hôpital de jour, soit vous prenez l'atelier d'Annabelle, qui est un atelier plutôt de danse rythmique, moi je viens d'une compagnie afro-brésilienne à la base, donc c'était plutôt autour des danses afro-brésiliennes. Et du coup, le psychiatre lui-même prenait l'atelier. Ça, j'ai trouvé ça assez ouf. Hein. Je me suis dit, putain, un psychiatre directeur d'un CHU de la section psychiatrie hyper ouvert, quoi, vraiment ouvert aux nouvelles expériences, à ce nouveau rapport au corps, en fait. Et la deuxième année, c'était avec des... Donc là, c'était plutôt hôpital de jour, schizophrène, psychotique. Et la deuxième année, c'était plutôt des patients qui étaient nés dans la psychiatrie, venant de parents eux-mêmes, patients psychiatres. Donc vraiment des pathologies très lourdes. Puis j'ai arrêté parce que en tant qu'artiste, ça m'a épuisée. Mais bon, j'étais contente de l'avoir fait. Et après, je ne sais pas pourquoi j'avais envie de le faire, mais pour ma communauté afro-descendante. Donc quand je suis rentrée en Martinique, c'était ça mon désir. Et c'est ça qui m'a... Alors, c'est à la fois ça qui m'a reliée à mon pays et mon envie de m'investir dans un engagement. Et en même temps, je ne perdais pas de vue le fait que j'étais en formation en body-mind centering, une pratique somatique qui est basée sur le toucher bienveillant, sur comment se connecter à ces différents systèmes de corps, nos liquides, nos ligaments, nos os, notre système nerveux, nos muscles. Et je m'étais dit, ce serait bien aussi pour moi de rentrer en Martinique parce que j'ai éprouvé beaucoup de difficultés à me rendre visible en tant qu'artiste dans l'Hexagone. Je me sentais invisibilisée dans une grande souffrance psychologique et du coup aussi physique. Et rentrer pour moi en Martinique, c'était me ressourcer, retourner dans la mer, MER, dans l'eau, reprendre soin de moi, revenir à du confort, me sentir bien dans mes baskets et après, évidemment, le transmettre. Donc, il y avait ce double processus chez moi, à la fois d'accompagnement auprès de publics, de femmes vraiment en souffrance et qui faisaient effet miroir avec moi et en même temps, moi, cherchant à reprendre du plaisir, à me connecter à mes fluides, à mes liquides, etc. Et puis après, il y a eu un chemin qui était davantage lié à des pratiques spirituelles afro-descendantes et amérindiennes. Moi, je trouve ça très intéressant de se relier à ce territoire, la Martinique, à la fois par cette entrée, c'est-à-dire le peuple Caraïbes, Taïnos, Garifuna qui étaient présents avant la colonisation des Européens et de se relier aussi à ce territoire, à cette terre Martinique par le panthéon Yoruba, les religions afro-descendantes. Et donc du coup, il y a tout un chemin que j'ai pratiqué autour de ça jusqu'à maintenant, hein, jusqu'à aujourd'hui. Et donc la santé mentale pour notre peuple, elle est hyper importante et précieuse. Et c'est vrai que des fois, les corps... Moi, j'observe les corps à Fort-de-France ou peut-être moins en campagne, mais plus à Fort-de-France. Des fois, les corps sont abîmés. Il y a pas mal d'alcoolémie, des dégâts qui sont sous substance dès le matin très tôt. Donc on sent quand même qu'il y a des fois voilà, des phénomènes de déshérence, de je ne sais pas si c'est... ça ne peut pas être du déracinement puisqu'on est sur le territoire, mais je sens qu'il y a... Il y a quelque chose qui fait qu'on est déconnecté en fait de ce qui pourrait peut-être nous ressourcer, qui sont pas les outils du maître, hein, comme dit Audre Lorde, hein, on ne détruira pas la maison du maître avec les outils du maître, mais peut-être d'autres outils liés au rituel, liés à la communauté, au cercle, aux danses ballet, aux danses d'Amier, l'Adja, enfin... De se retrouver, de se réunir, et etc., etc., etc.
Mais justement, enfin, comme tu le soulignes, l'aspect spirituel quand même, pour aussi comprendre le processus de colonisation qui en tout cas engendre un processus d'aliénation. Et c'est que dans les religions vaudou, la figure de l'aliéné, c'est en fait finalement être envoûté. C'est d'être envoûté et d'être plus maître, en tout cas, de ses décisions jusqu'à devenir zombie. Donc là, voilà, tu parles de ces corps errants, de ces corps dépossédés à eux-mêmes. Et voilà, en fait, ça, c'est justement hyper intéressant de comprendre, en fait, la violence du symbole, en fait, que représente le zombie. C'est quelqu'un où, en fait, on ne perçoit que l'enveloppe corporelle et qui, à côté, voilà, se laisse mener, chambouler et transporter aussi par, on va dire, ce que le maître, en tout cas, lui donne à voir, lui donne à, comment le maître lui donne aussi à percevoir le monde et finalement, comment le maître, en fait, modèle le monde selon ses propres perceptions et son propre système. Et justement, vis-à-vis de ça, l'idée de cette rencontre, c'était aussi qu'on puisse développer ensemble, en tout cas, des outils. Et l'un des principaux outils, en tout cas, qui a émergé pour moi, c'est la capacité de nommer. Voilà, la puissance du verbe, tout à fait. Il faut savoir qu'il n'est pas anodin, en fait, que le système, en tout cas, français est... jusqu'à pas longtemps, en fait, nommer d'abord les esclaves en fuite des marrons. Là, c'était carrément en faisant référence, en fait, ça vient de six marrons. Ça faisait référence au bétail qui, en fait, fuyait et du coup redevenait sauvage. Et du coup, vu que les esclaves étaient facilement assimilables à du bétail, tout ce qui fuyait, en tout cas l'esclave fuyant, est devenu le marron, quoi. Et justement, tout à l'heure, et l'intitulé de la rencontre est assez ambivalente aussi pour moi. Et je souhaitais qu'on puisse en discuter ensemble. Le terme de métropole qui, je vous le rappelle, en fait, en 2023, a officiellement été remplacé par le terme hexagone. Et en fait, je voulais à toi, Marlène... À toi, en tout cas, aussi, Annabelle, parce que vous n'avez pas la même manière de nommer, en tout cas, le territoire hexagone. Moi, je le nomme hexagone. Mais aussi d'essayer de vous faire comprendre, en fait, les enjeux de pouvoir qu'il y a derrière. En tout cas, le terme métropole vient de métropolis. Et en fait, c'est la mère, c'est la cité mère qui, en fait, s'étend... se considère métropole par rapport, en fait, à ses colonies. Et ça, c'est la définition telle qu'elle a existé et telle qu'elle a opéré dans, on va dire, le système de langage jusqu'en 2023 et que ça persiste, quoi. Et je voulais te poser la question. Toi, en fait, ce rapport, en fait, à l'hexagone, à la métropole et l'utilisation des termes que tu en as, est-ce que tu t'es posé des questions sur la manière de nommer, en fait, cette autre partie de l'Atlantique ?
C'est intéressant comme question parce qu'en fait, ayant vécu longtemps justement en métropole, quand je suis arrivée en Martinique, c'est là où j'ai compris la différence. C'est-à-dire que peut-être que sur notre territoire... Dire métropole, c'est aussi mettre l'accent sur cette colonité, sur le colonialisme. Et choisir de dire hexagone, c'est prendre une distance et juste observer la forme de cet espace, de cet espace qui est autre. Donc nous, on dit aussi beaucoup l'autre bord.
parce que ça a plus de force.
Ça fait la figure de la mère.
Ouais, parce que du coup, ça veut dire qu'on revendique d'être insulaire et on l'assume, on l'affirme. Et l'autre bord, pour nous, bah, du coup, c'est pas que la France, c'est tout l'autre bord. Et ça, c'est aussi créer un peu justement notre identité, un peu plus. Maintenant, voilà, moi dans mes dossiers ou quand je parle, j'essaie effectivement de dire hexagone, mais métropole me paraît un terme très vieillot et qui effectivement met l'accent sur ces histoires d'hommes, de tomes, sur le général de Gaulle, sur des choses qui sont encore hyper lourdes en fait sur les Caraïbes. Il faut pas oublier qu'en Martinique, il y a pratiquement 60% de la population qui est âgée. Et j'en parle parce que mon père en fait partie, et ce sont aussi des personnes qui sont fonctionnaires, donc qui ont aussi une image de la France qui est complètement différente de la nôtre, par exemple.
Du genre, ton père
Mon père, qui a 85 ans, qui a travaillé au PTT toute sa vie, qui a pris sa retraite en se disant bon, je vais aller un peu au soleil. Finalement, quand il dit jamais la France, hein, il dit la métropole. Parce que pour lui, c'est vraiment la terre de référence. Et nous, on dit l'autre bord, parce que du coup, on se sent plus, peut-être plus libéré. Et aussi, on a une image de l'autre bord qui est plus large. C'est-à-dire que moi, je pense aux États-Unis, à la Grande Caraïbe, à tous ces endroits qu'on a envie aussi d'explorer, de connaître, d'habiter, et qui sont importants aussi pour nous en tant qu'artistes. Et qu'on n'a pas forcément la possibilité de visiter aussi vite qu'on le pense, parce qu'on est tous dans la Grande Caraïbe, mais malheureusement il y a pas beaucoup de transport, hein, puisqu'on est francophone, faut pas oublier, hein. Et du coup la Caraïbe francophone face à la Caraïbe on va dire anglophone, c'est déjà très compliqué d'y aller, hein. Donc on est un peu seul. On nous dit, hein, que les choses vont se développer, que ça va nous permettre aussi de retrouver une identité plus large pour nous qui est nécessaire. Mais au final, on va dire d'un point de vue complètement gouvernemental, c'est des choses qui ne se fait pas. Ça se fait pas. C'est-à-dire qu'effectivement, si on peut prendre le bateau, qu'on a un bateau privé, c'est pas mal. Mais si on veut prendre l'avion, c'est beaucoup de détours en fait, hein, pour passer. Je sais pas. Par exemple, moi, je suis allée à Trinidad. J'ai fait 7 heures d'avion. Voilà, pour parler un petit peu de cette référence hexagonale qui pour nous est un peu désuète aujourd'hui.
Bah, il faut savoir aussi que voilà, enfin, la notion de métropole, certes, elle est en tout cas amendée, et amendée seulement en ce qui concerne tous les domaines militaires. Voilà, dans d'autres domaines, on continuera encore pour l'instant à utiliser le terme. Et si le terme métropole, en tout cas, il fait référence à, on va dire, une continuité du territoire qui, en fait, continue à exister via ses colonies, on va dire comme l'Empire romain, hein, il n'y a pas de choses qui ont réellement changé par rapport à ça. Il y a quand même une spécificité, c'est que depuis, on va dire, un bon nombre d'années, une dizaine d'années, en fait, les amendements qui visent à donner des statuts spécifiques à chacun de ces territoires se multiplient aussi parce qu'en fait, il y a des revendications, hein, on appelle Nouvelle-Calédonie. Et là, en fait, on assiste depuis 2023 à, on va dire, à un glissement au sein de la Constitution dans la manière de nommer ces habitants de ces territoires et en tout cas de se positionner. Et si en fait on réaffirme quand même, on va dire, l'idée de possession, elle passe autrement. Je vais vous lire ça. Donc, tout en cherchant à réaffirmer l'appartenance de ces territoires à la République, certes en multipliant les statuts spécifiques, l'État aliène cette fois-ci par la portée symbolique. En effet, ce ne sont plus des territoires que l'on possède, mais l'ensemble d'individus qui partagent un même système de valeurs. Du coup, là, je vais citer l'article. La République reconnaît au sein du peuple français les populations d'outre-mer dans un idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité. Donc, c'est l'article 72-3, alinéa 1er. Donc là, voilà, il y a un glissement qui s'opère. En fait, on n'est plus possédant de territoire, mais de fait, les Caraïbes et les habitants, du coup, moi, je dirais aussi de l'autre bord, si je peux, sont affiliés à la nation, parce qu'en tout cas, ça, pour le coup, on partage le même État, ça encore, par le fait qu'on serait supposément en train de partager un même système de valeurs et d'égalité. Seulement, comme on a pu l'observer, c'est un discours qui s'effrite très très vite quand on se rend compte de ce qui, dans les faits, est pratiqué. Et bah là, c'est un petit peu incontournable pour moi de parler du chlordécone, quand on sait que, là, dans les chiffres que j'avais, il y a plus, à ce jour, on estime à au moins un tiers des surfaces agricoles et près de un demi, donc la moitié des ressources en eau douce et du littoral marin de la Guadeloupe et de la Martinique, contaminées. Et la contamination, elle passe par la voie alimentaire, donc tout ce qui est poissons, crustacés, œufs sont contaminés. Donc, et bien sûr, l'eau douce aussi. Et il faut savoir, moi, c'est ce qui m'a choqué, toutes les informations que j'ai trouvées, ce que je fais, c'est que j'essaye de trouver les informations les plus simples. Vous pouvez aller sur le site d'Amélie pour, en tout cas, vraiment avoir toutes les informations que l'État reconnaît sur le chlordécone, tout en ne reconnaissant pas, évidemment, sa responsabilité dans ce scandale. Du coup, moi, par rapport à la question de la santé mentale, là, du coup, je pose aux principaux intéressés, comment est-ce qu'on fait pour vivre au jour le jour, au contact d'aliments potentiellement contaminés, et face à une reconnaissance, on va dire, ouverte, officielle, de la responsabilité de l'État face à cet empoisonnement collectif, en tout cas la faute. Comment est-ce qu'on fait pour vivre au jour le jour avec, on va dire, le fait qu'on n'est pas égaux de fait. Voilà, c'est une petite bombe.
Je l'ai sauvée en étant une citoyenne lambda et en étant en contact avec ma famille là-bas et en ayant vu comment, moi, quand j'étais petite et jusqu'à ce que je parte en 91, on mangeait encore les racines. Et puis bon, on mangeait un peu de pâtes et le riz. Bon, on avait le système des lolos et tout. Et on, voilà. Quand je suis revenue, je me suis rendu compte que les lolos. Ah oui, les lolos. des petites boutiques dans le. Alors moi, je suis née à Basse-Terre, mais j'ai vécu dans un endroit complètement de la plantation. Je tiens à préciser ça. Quand j'étais petite, avant que mon père construise la maison, j'ai vécu dans des anciens baraquements avec ma mère et ma tante et ses enfants d'esclaves, d'anciens esclaves, puisqu'ils sont restés dedans, puisqu'ils sont devenus, ils sont passés d'état d'esclaves à servage. Et puis on a fait aussi venir, bon c'est très long, d'autres personnes travaillent à leur place, etc. Il y a toujours un sentiment de trahison. C'est dans tout ce qu'on dit, enfin c'est compliqué pour moi là du coup, mais dans tout ce qu'on dit, comment voulez-vous ? Enfin, je viens d'apprendre, j'ai suivi une dame qui, une descendante de Colabo, qui raconte que dans le gouvernement, parce que je découvre tout ça au fur et à mesure, hein, j'ai 50 ans et plus, j'aime pas tout. Voilà, il faut du temps pour comprendre son histoire, surtout quand on nous le cache. Et quand mes enfants reviennent, dont mes enfants, c'est des enfants que j'ai fait avec un Breton ici, et mes enfants me disent, ma fille m'a dit, oh, maman, on est obligé d'embrasser la cause. Je suis obligée, moi, métisse, d'embrasser la cause de nos descendants parce que, par rapport à ce problème. Quand il y a juste un chapitre comme ça qui passe. Pour ces enfants qui vivent, notamment dans la métropole hexagone, dans cet autre bord française, quand votre enfant revient et dit ça, etc. Je ne sais plus ce que je disais du coup, mais oui cette histoire de trahison. Voilà, c'est-à-dire que on découvre qu'effectivement, De Gaulle savait très bien qu'il fallait régler ce problème de la colonisation, libérer, etc. Parce que c'est des gens qui se sont battus. Enfin, c'est très complexe. Il ne le fait pas. Et quand j'apprends par la petite fille d'un collabo que la majorité de son gouvernement, là, qui avait après-guerre, parce que moi, je n'étais pas là, je n'étais pas née, donc je ne savais pas, c'est quasiment que... Donc, il y a de la gangrène, déjà, sur cette histoire-là. Simone Veil en a parlé, de cette omerta qu'on a posée. Et nous, voilà, il y a aussi de ça. C'est-à-dire que c'est très complexe aussi. Moi, dans ma famille, j'ai découvert l'esclavage par moi-même. J'ai découvert ce que je suis par moi-même. Ça ne se parle pas, ça ne se parlait pas. Et pourtant, je vivais en plein dans l'ancienne plantation. Vraiment, luxuriante, etc. Et j'ai joué. Moi, j'ai joué sous les avions qui passaient et qui balançaient du chlordécone. Donc, c'est une trahison qui continue. Et quand on voit... quand un ministre, je sais pas s'il est un autre homme politique, faire la déclaration sur les prix des avions. Enfin, la colère monte en nous. Hein. Quand sur le prix des avions et que l'autre attale ou je sais pas son nom, il a la tête baissée, etc. Et quand on comprend qu'on paie des taxes pour la NCCF sur nos billets d'avion, quand on sait que les colons, les anciens esclavagistes, ont été indemnisés après qu'il y ait déclaration d'esclavage, c'est un sentiment très profond de trahison. C'est que ça qui me vient, profond de trahison. Voilà. Mm. Comment on fait avec ça, quoi ?
Moi, je veux juste revenir sur... on parlait de statistiques. Pour des raisons qui me sont personnelles, puisque nous avons choisi avec Myriam Soulange de travailler sur le sujet, 98% de la population a du chlordécone dans le sang. Voilà, je pense que ça, c'est un chiffre qui dit tout.
Ulysse, est-ce que tu peux expliquer aux gens combien de temps ça met à s'évacuer dans le sang, le chlordécone, une fois que tu as...
Alors, dans le sang, on ne sait pas.
C'est 130...
dans les terres.
131 jours, une fois que tu as été en premier
alors,
contact.
Alors, ça, ce sont... alors, après, je vais parler... je vais être cash. C'est difficile aussi parce que... J'ai rencontré un collectif d'ouvriers empoisonnés, donc du coup, les détails, on les a. Ce que l'on sait aujourd'hui, très simplement, c'est qu'effectivement, les normes, on ne sait plus où on en est pour estimer qu'on en a assez ou pas du tout. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que les analyses sont faites en métropole et que, en définitive, on fait des choix d'envoyer en fait ces analyses le plus tard possible sur le continent, enfin en tout cas sur la France, de façon à ce qu'on ait des résultats qui soient les moins alarmants possibles. Donc ça, c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est vraiment Yvon avec qui j'ai fait des recherches, qui nous tient au courant au fur et à mesure de différentes informations, que lui-même découvre aussi avec de pair avec les laboratoires, avec les lobbies, hein, parce que bon, on n'est plus trop seul hein, par rapport à ça. Il y a énormément de collectifs, de personnes qui se mobilisent. Et du coup, l'État essaie vraiment de négocier, hein, parce que là, on en est là, dans une négociation pour, on va dire, indemniser certaines personnes sous certaines conditions. Et non, ce que je voulais surtout dire, c'est que on ne sait pas hein, combien de temps on peut l'avoir, combien de temps ça reste, mais ce qu'on sait, c'est que c'est une molécule qui reste 700 ans dans les sols. Donc voilà, je pense qu'on n'a même pas besoin de s'occuper de nous. Occupons-nous de la terre, occupons-nous des sols et essayons de voir comment les générations futures feront avec ça. Je pense, Annabelle, tu peux en parler parce que tu as un petit garçon. Je ne sais pas quel est ton positionnement par rapport à ça, par rapport à ce jeune enfant qui va grandir dans ce pays.
En tout cas, moi, j'ai l'impression que si on arrive vers les générations futures, il y a aussi un regard vers le passé qu'on peut avoir et de très intéressant. Voilà. Enfin, de toute façon, on a qu'une heure de rencontre, donc c'est hyper court. Hein, donc pour, on va dire, introduire certaines notions. Et en tout cas, moi, en tout cas dans mes recherches, ce qui m'a paru assez libérateur, ça a été de me pencher réellement sur la question de l'art et en fait de l'art comme système de marronnage. Et comme je vous le disais tout à l'heure, je ne sais pas si pour certains vous êtes au fait, vous savez ce que c'est le marronnage, les marrons. Est-ce que quelqu'un peut expliquer à la communauté ?
Marron, sur les plantations au temps de l'esclavage. Des hommes et des femmes du coup contre l'ordre établi décident du coup de quitter la plantation mais de façon sans autorisation, vous vous doutez bien. ils se sont installés. Moi, quand je pense marron, je pense surtout aux Bushinengue.
Ah oui, il y a les Boni aussi
qui sont en Guyane, sur le fleuve. Et donc en tout cas, moi, comme j'ai en tête cette notion-là de marronnage, c'est d'être à travers les petits sentiers chez un chien. Mmh. Et puis se débrouiller avec son environnement, être en confiance en fait avec son environnement parce qu'on sait qu'il est neutre.
Du coup, en Haïti, enfin moi je suis haïtienne et Neg Mahon par exemple, c'est un grand personnage en Haïti qui est parti justement des plantations et qui a amené pas mal du coup de personnes avec lui. Ils sont partis vivre dans les hauteurs du coup en Haïti, dans les montagnes.
Trop bien.
Et moi, ce que je trouve intéressant par rapport à ce trauma de la plantation, de ce trauma plantocratique de la plantation avec tout le système de terreur qui était établi et aussi de terreur non seulement psychologique et mentale, mais aussi des éléments de torture, des machines de torture au moment où certains esclaves prenaient la fuite et quand ils étaient rattrapés. On en discutait, je ne sais pas si tu te rappelles, Raphaël, avec Daniel, qui est donc qui n'est pas là, mais qui on va jouer ce soir Mamie Sargassa 3.0 avec Raphaël à la guitare et Daniel à la batterie. Mmh. Et je ne sais plus si c'était hier, Raphaël, mais il nous parlait du marronnage, mais à l'intérieur, dans la maison du maître, l'empoisonnement, donc comment l'utilisation des plantes médicinales, mais à double tranchant, c'est-à-dire selon la décoction, selon... comment tu vas la préparer, le type de feuillage et puis le dosage, peut devenir une plante qui soigne comme peut devenir une plante qui empoisonne. Et comment, du coup, certaines femmes et hommes qui avaient la possibilité de rentrer dans la maison du maître, soit parce qu'elles avaient une couleur de peau plus claire, esclaves de maison, domestiques, pouvaient aussi empoisonner le maître de l'intérieur. Et ça, j'ai trouvé ça... parce que pour moi, le marronnage, c'était toujours la mangrove, c'était toujours effectivement l'état de fuite. Mais pour moi, il y a la fuite, le figement et le combat. Exact. Comme dans un trauma, tu vois comment ton système nerveux, il est dérégulé, il réagit. Et ça, c'est vraiment lié à la santé mentale aussi pour moi. Et le combat, soit il va passer effectivement par des formes de danse de combat comme le Laja Dormier, mais qui était interdite, évidemment. Mmh. Soit un combat, mais à l'intérieur...
De la plantation.
De la maison du maître. C'est-à-dire dans la cuisine. Mm. Dans la cuisine, on rapporte la tisane au maître et paf. Donc ça, je trouve ça aussi très intéressant.
Et très important à mettre la lumière parce qu'en fait, on oppose aussi énormément.
Par rapport aux questions de désaliénation.
Voilà, exactement.
C'est pas se réjouir que, le maître, il est mort, mais c'est comment aussi prendre de la... Nous, parce qu'on est en 2024, là, donc c'est comment prendre de la distance, comment voir cette histoire, comment se réapproprier aussi nos propres armes telles que les plantes médicinales, et parler de générations futures, Marlène. Moi, c'est ça peut-être que j'ai envie de transmettre. C'est cette capacité qu'on a non plus tant de résilience, mais aujourd'hui de même aller au-delà de cette forme de résilience et tout simplement vivre, quoi. Ouais. C'est-à-dire, moi, je veux plus me sentir en condition de survie. Je veux me sentir vivre et éprouver du plaisir à vivre et à faire mon art, comme tu dis, c'est-à-dire comment l'art aussi me donne la capacité à transcender des traumas qui peuvent perdurer de génération en génération. Même si on parle de traumas avant 1848, c'est des traumas évidemment qui vont avoir des conséquences, des dégâts, des formes différentes jusqu'à aujourd'hui, quoi.
C'est quelque chose sur laquelle je me suis penchée parce que je pense que ça mérite, en tout cas, ça mérite d'observer comment, en fait, les marrons en fuite et aussi, voilà, les domestiques à la maison, en tout cas, procédaient pour, en tout cas, se libérer. Et pour moi, c'est un premier pas vers la désaliénation. Et en fait, on est toujours dans des... On se demande comment se désaliéner, etc. Mais en fait, je pense aussi que c'est très important de se reconnaître en tant qu'héritier de personnes qui se sont libérées et ont entamé un premier processus de désaliénation qui a donné lieu à des cultures, dont en tout cas au sein des Caraïbes, traversent un peu le monde et qui ont su toucher tout un ensemble de régional et même au-delà, quoi. Chloé, tu voulais dire un peu.
Oui, je voulais dire, rajouter la nécessité que d'avoir des alliés. En fait, moi, je m'en rends compte que dans mon cheminement vis-à-vis de l'état du monde et puis de cette question de race, J'étais un peu embêtée parce que, étant née en France, donc j'ai grandi avec des amis blancs. Après, arrivée en Martinique, je suis avec des Martiniquais. Ils me disent « Ah, mais t'as des amis blancs ». Bon, bref, une aventure. Et en fait, sur les deux derniers jours, j'ai des amis, du coup, qui soit femmes qui bénéficient d'un white pass. Donc, ça veut dire, qui sont racisées, mais qui ne sont pas...
Tu parles du colorisme.
Voilà. Ouais. Voilà. Et en fait...
Tu peux expliquer en deux mots ce que ça peut être?
On va dire des personnes qui... Je ne sais même pas comment expliquer. White pass, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu... On ne repère pas immédiatement quand on te voit que tu appartiens...
On ne sait pas.
Voilà, Voilà. Et donc, en fait, ces personnes... Donc, une personne blanche, je crois, et puis une amie qui bénéficie de ce white pass me dit qu'elle reconnaît que sa vie professionnelle est plus facile parce que cette déconstruction là moi je l'ai faite déjà parce que je suis une femme noire et je sais comme je suis reçue et regardée dans la société, mais c'est quand même très rare d'entendre de la part de personnes qui ne sont pas racisées qu'ils bénéficient de privilèges. Et en fait, ça, je pense que c'est le point sur lequel j'aimerais qu'il y ait une avancée extraordinaire, c'est que chacun puisse se renseigner sur quel est son héritage vis-à-vis de l'esclavage. Voilà. Et que chacun puisse savoir où il en est. Je crois que c'est James Baldwin qui disait que, en fait, c'est l'homme blanc qui a mis en place, du coup, cette question d'esclavage et d'asservissement d'une communauté. Bref, pourquoi il a fait ça même? En fait, c'est plutôt... nous, on se pose la question de comment on va se relever, parce que fiche que c'est dur, etc. Mais en fait, cette responsabilité-là ne dépend pas que de nous, en fait. Et ça, je pense que c'est quand même important de l'entendre aussi en France, quoi. Que tout le travail à fournir vis-à-vis de cette question de décolonisation ne réside pas simplement sur les épaules de la communauté noire ou des personnes racisées. Voilà.
Mais peut-être qu'il y a quelqu'un du cercle qui voudrait... témoigner ou partager quelque chose, quelqu'un qui se considère comme blanc et qui voudrait peut-être.
Je me permets parce que. La question n'est pas juste de dire je prends la parole parce que je suis blanc, mais oui. c'est en tout cas, même ne serait-ce que cette initiative-là, moi je la salue. On est à Rennes, Théâtre de l'air libre, enfin voilà, merci. Et j'espère ne pas vous avoir choqué avec mes propos.
Non, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait prendre la parole aussi, qui se sent pas appartenir à la communauté afrodescendante, mais qui du coup veut quand même prendre la part? Parce que moi, ça, c'est important pour moi d'entendre
qu'on se vive en communauté,
parce que c'est
névrose, un cercle, collective.
En fait, donc du coup, c'est comme un bâton de parole qu'on va. Donc je sais pas, monsieur, vous vouliez peut-être dire quelque chose, ou monsieur, je sais pas.
On peut élargir le débat parce que on parle de communauté spécifique, mais si on regarde l'histoire de l'humanité, il y a toujours ce problème de domination, etc. On va utiliser des stratégies, des théories, etc. pour le faire, ne serait-ce que le travail, quoi, par exemple, on voit que aujourd'hui le travail est beaucoup de blessés par le travail. On peut élargir ça, puisqu'on est aussi en terre bretonne. Je suis mariée avec un breton. Je pense que je suis très étonnée, moi, de ce que je peux dire de ma culture, de comment je peux vivre ma culture tout en étant maintenant une négropolitaine. et comment mon conjoint ne transmet rien de sa culture, parce que ça ne lui a pas été transmis. Je pense que ici aussi, il y a d'autres personnes. On est aussi en terre bretonne et gallo plutôt, d'ailleurs. Par exemple, ici, les bretons ont pu le pas sur les gallos dans les revendications. Est-ce qu'il y a des gallos parmi vous? Qu'ont-ils à dire par rapport
exactement,
à ça?
Exactement. Moi, je pense que c'est très, très, très intéressant. Hein.
Je veux juste dire que moi, là où ça me parle, c'est donc je suis un homme blanc, et c'est la question des alliances, en fait, qui quelque part donne envie de se dire, on ne sait pas toujours quoi dire, comment se positionner. Il s'agit d'abord d'écouter ou de rencontrer. Mais par exemple au Québec, en ayant été travailler notamment avec des personnes de la communauté autochtone, enfin d'une des 11 nations, des Premières Nations du Québec. Il y avait toute la question de l'appropriation culturelle qui était extrêmement présente aussi. Et du coup, ça pose vraiment... Oui, ça demande de se renseigner, par exemple, dans un domaine artistique, de comment... pourquoi est-ce que j'ai envie de creuser cette question, moi, par exemple, qui suis français, blanc, breton. Peut-être parce que, par exemple, là-bas, j'éprouve une lointaine responsabilité parce que je suis quasiment malouin et que Jacques Cartier a fait ce qu'il avait fait. Donc, à un moment donné, est-ce que je n'ai pas aussi en responsabilité d'aller enquêter, voir ce qui... Et puis... Mais au-delà de ça, c'était comment le faire. C'est-à-dire ne pas... Et donc, il y avait la question des alliances qui était ultra centrale, qui là aussi se construit. Donc, on te dit, ça... L'idéal, c'est d'avoir quelqu'un qui va t'accompagner. Donc là, nous, on avait un vidéaste qui nous a accompagnés, qui nous a emmenés dans sa communauté, dans sa nation, qui elle-même, en plus, avait disparu pour une question de terre. Enfin, il y a eu des choses très fortes. Mais c'était d'être prêt à se mettre derrière quelqu'un d'autre qui va nous guider dans son histoire aussi, qui va nous emmener. Et c'est là-bas, vraiment, que j'ai découvert cette question, ce mot des alliances, et où ça donne vraiment envie de se dire, j'ai envie de connaître d'autres causes, j'ai envie d'être... Et c'est un apprentissage au fur et à mesure, en fait. C'était surtout ça, se dire c'est une position où tu te dis, à partir de là, je vais pouvoir construire un savoir par la rencontre, par les histoires que les autres veulent bien nous transmettre. Et oui, après, même sur la question de la culture gallo, par exemple... en revenant, là-bas, il y a un performeur Wendat que j'ai rencontré et qui nous a renvoyé, disant « Mais pourquoi tu viens là ?» Et en Nouvelle-Calédonie aussi, « Pourquoi tu viens là ?» Et il y a cette question, comme je disais, d'aller pour peut-être des raisons personnelles, de vouloir y aller. Mais ça renvoie quand même à la question de « Est-ce que moi, je vais aller interroger mon histoire ? Est-ce que je vais aller... Donc moi, j'étais interviewé mes parents après sur des questions personnelles.
Ouais,
la question de la coutume, je me suis rendu compte qu'elle existait tout autant ici. La coutume, elle existe. La coutume de rural. Nous, on a aussi des fois un peu ce dédain des péquenauds. Nous, on a une autre histoire vis-à-vis de notre territoire. On est un peu dédaigneux. Il y a plein de choses qui, quand on vient de là, qui a été... Mais en tout cas, il y a des choses communes. Et c'est plus la question de la modernité aussi et effectivement des rapports de domination.
En effet, c'est de reconnaître peut-être collectivement que tout système de domination engendre en fait une névrose collective.
Oui.
Et que là, par contre, on a tout à chacun, en tout cas, la possibilité d'entrer en tout cas dans un questionnement en établissant des systèmes d'alliance, en ayant des personnes qui soient en tout cas capables de se dire que c'est une problématique commune, quoi.
Oui, et puis d'écouter en tout cas ces histoires-là, parce qu'il y a ce rapport aussi de cumulatif, c'est-à-dire chacun a des parcours différents, a un genre différent, a des aspirations différentes, a des traumas différents. Donc c'est vrai que quand on entend des choses sur l'intersectionnalité, on a juste envie de dire c'est l'évidence même, en fait.
Ouais.
Donc c'est au-delà de toutes les autres...
Merci pour avoir nommé l'intersectionnalité, parce qu'effectivement, ça, c'est une notion qui m'a, moi, permis de comprendre beaucoup de choses, en fait, comment je me situe toujours dans la société, et intersectionnalité et libération de la parole. En fait, c'est vraiment ça, moi, qui, en tout cas, là, m'a actuellement, ces dernières années, sauvée, c'est que je dis les choses. Nous verrons, du coup, la Bretagne s'est faite à moi, en Martinique, on va voir comment ça se passe.
Good luck. Voilà.
L'école a eu un grand rôle aussi sur... j'ai des amis blancs aussi. J'ai été dans un collège, lycée aussi, où j'étais la seule, enfin pas la seule, mais on n'était que deux noirs ou trois noirs. Et en fait, moi c'est des questions, c'est quand j'ai grandi vers mes 18 ans que je me suis posé des questions, je me suis rappelé que j'étais noire, et on me le rappelait aussi de par mes dires, ou par les autres, je le voyais. J'ai commencé à comprendre vraiment que j'étais vraiment noire, du coup, qu'à partir de mes 16-14 ans par là. Et donc, du coup, je me suis pas mal posé des questions vers mes 18 ans, et pareil auprès de mes amis. Et en fait, c'est que l'école t'apprend. La seule chose qu'ils connaissent en fait de la communauté noire, c'est l'esclavage, c'est juste ça, c'est la seule chose qu'ils voient. et ils ne connaissent pas le reste de l'histoire du peuple noir. Et quand je leur ai posé la question, en fait, c'est, par exemple, au parler du racisme ou autre, en fait, ils le voyaient pas, ils le savaient. Enfin, je peux pas dire qu'ils le savaient pas, mais c'est qu'ils le voyaient pas, ils prêtaient pas attention. Enfin, quand je leur parlais des sujets de, par exemple, trouver un logement ou quelque chose comme ça, et ben, une amie à moi, elle dit, je savais pas que, par exemple, le fait d'être noir ou arabe ou quelque chose comme ça. Enfin. D'ailleurs, du coup, de venir d'ailleurs, d'avoir des origines différentes, du coup, et ben ça pouvait entraîner le fait d'avoir des refus, en fait, et ça, ils le savaient pas. Et du coup, je pense que c'est pour les personnes blanches, en fait, c'est y a peu de personnes qui font l'effort, on va dire, de connaître en fait la communauté noire. C'est juste qu'ils ne savent pas, ils savent pas et ils ont pas envie de forcément de savoir. Il y en a qui ont envie, d'autres non, mais. Par exemple, juste le fait, elle m'a dit, Micheline, t'es ma seule copine noire, et j'ai appris beaucoup du coup sur le peuple noir et je comprends maintenant votre colère sur certains sujets ou d'autres choses comme ça. Donc par exemple, du coup, quand vous parliez de l'aliénation, c'est ça? Et ben c'est une reconstruction, c'est dans le sens où moi j'ai été adoptée, du coup j'ai été éduquée par une famille blanche. Et ben j'ai une certaine ouverture d'esprit sur le fait que. On va dire que c'est comme si j'avais une personnalité métisse dans le sens où j'ai... En fait, moi, c'est pas ma mère forcément qui m'a appris l'histoire du coup de ma couleur de peau. C'est moi-même de par les livres ou des choses comme ça. Du coup, je pense que les personnes blanches, elles peuvent en faire autant. C'est-à-dire que c'est pas forcément quelque chose qui... C'est pas, la culture n'est pas la leur, mais ils peuvent l'apprendre de par les livres, de par les films... Et c'est juste un effort à faire et c'est pour ça que je trouve que lors d'aujourd'hui, il y a plein de personnes qui prennent conscience, enfin plein de personnes blanches en tout cas qui prennent conscience de ça et je pense que ça va avancer mais ça va prendre du temps.
Je veux juste préciser quelque chose par rapport à ce que tu dis. Je veux juste préciser quelque chose, c'est pas que notre histoire. Il faut que nous aussi on comprenne ça.
Oui, mais je suis
d'accord. N'est pas que notre histoire, c'est l'histoire de France. Et ça, pour ça, on voudrait que ce soit traité tel quel. Voilà, moi je reviens toujours à mon mot trahison jusqu'au bout
Je sais pas si ça a trop de rapport, mais moi du coup je viens pas des Caraïbes, je viens de l'océan Indien, mais on a été colonisé par la France aussi, et là je parlais de ce que je connais, je veux parler de Madagascar du coup. On n'est plus français depuis un petit moment, mais du coup moi qui je suis né ici mais je suis parti très tôt à Madagascar, ma première langue ça a été le malgache, j'ai pas fait mes premiers pas ici, etc. et j'ai retourné beaucoup, même si je suis revenu en France. Et je suis pas sûr de la justesse de mes propos, mais je vais quand même dire ce que moi j'ai ressenti. Moi par exemple, le fait d'être noir alors que j'étais à Madagascar, pour moi il y avait... Tout à l'heure, Micheline parlait de l'école. Même l'école, même toute la société à Madagascar, tout en bas de l'Afrique, à Madagascar, pour moi, quand j'étais petit, j'avais l'impression que les gens qui étaient blancs, ils étaient mieux que nous. Mais ils étaient mieux que nous parce que, on m'a pas carrément. Moi, comme j'ai dit, je sais pas pour vous aux Caraïbes, mais. À Madagascar, quelqu'un qui est blanc était mieux que nous. Ils ont des meilleurs postes que nous. Ils ont des meilleurs. Pour même nous, malgaches qui travaillons à Madagascar, on veut des poursuites, d'autres poursuites d'études. On vient du coup en Hexagone. On va jusqu'en France. Du coup, on étudie. Même avec les meilleures intentions du monde. On veut revenir à Madagascar pour occuper le même poste que quelqu'un qui n'est pas noir. Pour compétences égales, c'est pas nous qu'on va prendre. On va même aller débaucher d'autres personnes en France qu'on paye le salaire moyen à Madagascar, c'est 27 euros par mois. On va payer 3500 euros un Français qu'on va venir chercher et à qui on va payer un logement. Donc comment... En fait, c'est surtout quand j'étais petit, c'est la question que je me posais. Enfin, petit et quand j'ai grandi un peu, je me suis dit comment. Enfin, pour moi, je sais même pas comment j'aurais pu ne pas penser que les blancs étaient meilleurs que nous. Enfin, c'est la question que je me suis posée en fait
à juste titre.
Je ne sais pas si ça a du sens ou pas, mais en tout cas...
À juste titre. Et en fait, on est assez chanceux, on va dire, aussi de vivre dans un contexte actuel où il y a énormément de recherches qui sont faites, il y a énormément de personnes concernées qui, en fait, ont réussi à mettre des mots, ont réussi, en fait, à faire admettre des concepts comme celui de colonialité du pouvoir, en fait. Là, tout simplement, en fait, ce que tu es en train d'essayer d'expliquer, c'est que dans les faits, la perception que tu as de ta société, en fait, elle diffère en tant que personne qui subit, en fait, les effets de la colonialité, de post-colonialiste, etc., d'un système. C'est que tu as l'appréhension de ta société par, en fait, les effets que ça engendre sur ta manière de pouvoir travailler, ta manière de pouvoir te sentir en sécurité au sein de l'environnement dans lequel tu évolues, ta manière de percevoir ton physique aussi, ta beauté. Voilà, là on est vraiment en train aussi, je pense que c'est l'idée de ces plateaux, c'était en tout cas essayer de sortir, on va dire, de trop longues analyses théoriques, qui sont pourtant très très importantes, mais en une heure impossible, mais en tout cas de pouvoir apporter à chacun et chacune le fait de se dire ce que tu dis là, il y a des termes pour ça, ce que tu dis là, maintenant c'est reconnu, ce que tu dis là c'est pas que dans ta tête, voilà. Et je pense que c'est collectivement, en tout cas, en tant que société, où on arrive, en tout cas, à devoir libérer la parole et, en tout cas, pour commencer, en tout cas, un réel travail communautaire sur ces notions-là. Bah, il est déjà 18h, quelle heure ? 40 ? 45 ? On va clôturer tout doucement. Mais en tout cas, ce qui est très intéressant, moi j'aimerais bien conclure aussi par le système de marronnage et vraiment de vous inviter en tout cas à lire dessus. Parce que qu'est-ce qui s'est passé en tout cas avec ces premiers esclaves qui, à la fois, bon, on va dire les esclaves domestiques ont fait ce qu'ils avaient à faire à l'intérieur et c'est trop peu reconnu. Maintenant, on a souvent en fait une appréhension de l'esclave domestique comme le traître. Et c'est ça aussi qui gangrène aussi pas mal nos rapports en interne dans nos sociétés. Mais en tout cas, ce qui s'est passé avec ces groupes d'esclaves qui, en tout cas, se sont réorganisés et qui ont dû, en fait, prendre la fuite, se fondre dans un système de forêt, se réapproprier un environnement. Et ça a été, on va dire, une occasion de donner naissance, en